France Culture.
Bonjour le Book Club, bonjour Aurélie Castelblum. Je viens de Libiotope et je veux vous remercier car ayant eu la chance de me rendre à Tel Aviv à plusieurs reprises, votre livre m'a permis de retrouver des lieux, des atmosphères.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Chute, dégringolade et comédie humaine. Aujourd'hui, dans votre book club, un certain Joseph Schimmel observe la ville depuis son appartement au premier étage, comme il semble observer sa propre existence d'un peu haut, d'un peu loin, pas certain qu'elle lui appartienne en propre. Licencié du département de langue française de l'université de Tel Aviv, la fenêtre devient son poste d'observation. Le dernier livre de la romancière israélienne Orly Castelblum suit la descente et une forme de dépossession de son personnage, avec un art jouissif de la description. Elle est de passage à Paris, elle est l'invitée du Book Club. Vers 15h50, comme chaque jeudi, nous prenons des nouvelles du livre en dehors de nos frontières grâce à la rédaction internationale de Radio France. Aujourd'hui, Pascal Guéricolas nous parle depuis le Québec d'un dictionnaire du chiller tout récemment paru. Et en fin d'émission, nous nous quitterons en chanson grâce à vous et au grand jeu des pages musicales. On est ensemble pour une heure, bienvenue à toutes et à tous dans le Book Club. Et bonjour Orly Castelblum.
Bonjour.
Votre livre Biotope a paru aux éditions Actes Sud dans une traduction vers le français signée Rosie Pignas Delpuech. Bienvenue à vous dans le Book Club et bienvenue à vous Rosie Pignas Delpuech.
Merci.
On est ravis de vous avoir avec nous. Peut-être vous direz un petit mot de votre travail de traduction, mais vous êtes surtout là pour aller donner béquille au magnifique français de Orly Castelblum. Non, c'est trop gentil de faire cet entretien tout en français. On est honoré que vous nous fassiez ce cadeau-là. Alors ici, tout commence par un portrait de lectrice. On s'intéresse à nos invités en se demandant quel rapport ils ont avec les livres qu'ils ou elles ont rencontrés sur leur chemin. Est-ce que vous vous souvenez avoir appris à lire? Où et comment, et est-ce que c'était bien?
Bon, ce n'est pas très facile à répondre à cette question parce que moi, je n'ai pas parlé l'hébreu depuis le début de ma vie. Mes parents sont d'origine égyptienne et ils m'ont parlé en français. Mais le problème est que je n'ai jamais étudié la langue française, donc je fais des fautes et malheureusement maman est déjà elle est morte, ça fait 2 ans et il y a personne qui me corrige. Et alors comme une lectrice et je me souviens que j'étais allongée sur le canapé et piquant au balcon et que je lus des livres en hébreu toujours. Et pour attraper la langue hébreu. J'ai jamais lu de livres en français parce que lorsque je remarquais que je ne parle pas la vraie langue du pays, j'ai tout à fait arrêté de parler le français. Tout d'un coup. Et je devais conquérir la langue hébreu.
Ça se passe à peu près à quel âge ce moment où vous réalisez ça, Orly Castelblum?
4. À l'âge de 4, j'ai reçu des coups à la crèche parce que je n'ai pas parlé la langue. Et alors là, je me suis dit, il faut faire quelque chose du grand. Je dois apprendre la langue hébreu. Et je commençais à lire, c'est-à-dire à l'âge de 6 ans, 8 ans, des écrivains. Et pas beaucoup des Israéliens, il faut dire la vérité. Et des traductions de Flaubert, Théophile Gautier.
Vous lisiez la littérature française, qui était votre langue maternelle, mais traduite en hébreu.
Exactement. C'est toujours été très compliqué chez nous. Et j'ai lu Maupassant, bien entendu, et surtout Balzac. Et surtout Balzac. C'est ça où j'ai appris à lire. C'est comme ça que j'ai appris à lire de traduction de livres de français classique.
Vers l'hébreu.
Vers l'hébreu.
Donc ça veut dire que pour vous, apprendre à lire la langue hébreu, il y avait un enjeu qui était double, c'est-à-dire apprendre à lire, sûr, mais aussi d'un seul coup, pouvoir parler ou maîtriser la langue du pays dans lequel vous grandissiez. C'était vraiment très important, du coup. C'était une double importance.
Très important. Dans le temps, c'était un peu honteux de parler une autre langue. Et si, et alors, c'était honteux, alors je n'ai pas parlé. Mais moi, avec la langue hébreu, c'était complexe que je parlais au début la langue française. Et après, la langue hébreu m'a donné l'opportunité de regarder la langue hébreu, d'observer la langue hébreu, d'observer les gens qui parlent hébreu. Mmh. Comment ils parlent hébreu? J'avais une certaine distance. Mmh. Et qui m'a aidé beaucoup pendant ma vie.
Vous diriez que ça vous a aidé à quoi, finalement, d'entendre cette langue-là de votre pays, presque comme une étrangère?
Exactement. Mais comme vous le savez, en hébreu, je n'ai pas aucun accent. Mm. Aucun accent du français. C'est tout à fait disparu, grâce à Dieu. Maintenant, que je viens en France et que je écris un livre sur quelqu'un qui est moitié français, c'était pour moi quelque chose de très important parce que je devais finir le sujet de la langue française dans ma vie et la culture française. Je devais terminer avec cette question. Et je crois que dans ce livre, je peux arrêter de jouer avec ce complexe.
On va y arriver avec ce personnage de Joseph Schimmel. En effet, il y a toute la question de ses origines, de sa double origine, de l'héritage de sa grand-mère d'une maison en Normandie. On y viendra, mais peut-être pour rester sur ce sujet de la langue française, parce que ça nous intéresse aussi, Early Castleblum, c'est vraiment la langue de la petite enfance. Oui. Alors, si ça vous a permis de regarder la langue hébreu ensuite presque comme une étrangère, en faisant l'apprentissage de cette deuxième langue, vous diriez que vous avez quoi comme rapport avec la langue française, cette langue des nourrices, cette langue des premiers soins d'une certaine manière? Vous avez quoi comme rapport avec cette langue-là, avec le français?
Bah écoute, d'abord j'admire la langue que je ne connais pas très bien, j'admire la langue, j'admire la culture. J'admire la littérature française. Je trouve que c'est le top. Alors, moi, c'est vrai que parler en français, c'est pour moi parler sur mon enfance. Il y a des mots que je sais très bien. Mange, ça suffit. Tais-toi. Et ferme ta bouche, des choses pareilles.
C'était pas une très très bonne ambiance.
Non, 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 mais écoute, j'avais aussi des femmes qui s'occupaient de moi, des françaises, des francophones. Lorsque j'étais petite, maman toujours a demandé des femmes qui s'occupent de moi, des françaises.
Oui, vous disiez des Arlettes, des Colettes, c'est ça?
Mais surtout, on m'a dit de manger. En français. Mm. C'est-à-dire que le manger, ça va avec la langue française. Et ça se voit dans le livre.
Oui, parce que ce personnage-là consacre sa thèse à la place de la nourriture dans l'œuvre de Honoré de Balzac, ce qui est un joli pied de nez ou de transformation de votre enfance. Est-ce qu'il y avait des livres dans la maison dans laquelle vous avez grandi?
Bah oui. Mais pas vraiment d'abord, il y avait seulement des livres en français. Mon père, lorsqu'il rentrait du travail à El Al, à 5h moins quart, il a vite, vite mangé quelque chose, vite, vite, parce que manger, ce n'est pas quelque chose qui doit durer de temps. Et il est assis avec des livres de série noire. Moi, je me souviens, mon père, toujours derrière un livre. Et tu ne peux pas voir son visage. Tu peux voir seulement la série noire. Et je crois peut-être que le fait que je sois devenue une écrivaine, c'est quelque chose de Oedipus. Mm. Je voulais attraper l'attention de mon père. Mm.
Parce qu'il y avait ce livre devant son visage.
Parce qu'il m'a fait l'impression que lire, c'est la vie.
Mm. Votre mère lisait aussi?
Comment?
Votre mère lisait aussi?
Elle a lisait, oui, oui. Ma mère, elle a lu beaucoup, mais pas le genre de choses que moi j'écris. Et si on parle de ça, lorsque maman, elle n'a pas lu mes livres en hébreu, et chaque fois je lui apportais mes livres en français. Et un jour, je lui apportais la traduction de roman égyptien.
qui est un roman justement où vous parlez beaucoup de vos origines.
Exactement. Et j'ai écrit une très belle dédication. Maman, tata. Et j'ai pris la voiture et je rentrais chez moi. Après, peut-être une heure, non, moins 20 minutes, je reçois un coup de fil de maman. Et maman, en français, comme ça. Et la conversation. Orly, tu n'as pas honte? Mais oui, maman, qu'est-ce qui s'est arrivé? Qu'est-ce qu'il y a? Mais moi, toujours, elle a commencé les phrases à la fin. Et tu devais deviner de quoi il s'agit. Alors, elle me dit, tu n'as pas honte? J'ai dit, maman, qu'est-ce qui t'est arrivé? Moi, mes dents n'étaient pas bien fixées en Égypte. Parce que c'était marqué, ses dents n'étaient pas bien fixées en Égypte. Tu sais qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour arranger tes dents à toi? Tu sais combien de l'argent on a dépensé pour tes dents à toi? Alors, je suis arrivée dans un place rond. Je faisais le...
En écoutant votre mère, oui, vous parlez de votre livre traduit, oui, en français.
Et je retournais à la maison de maman. Je garais la voiture, je montais les escaliers, je pris le livre et je rentrais chez moi. Mmh. Je volais le livre. Parce que je croyais que si ça, elle me demande à page 7, qu'est-ce qu'elle va me demander à la page 12 et comment je veux me défendre, mmh, si elle a raison. Mais tout, voilà, ça c'est l'histoire. Maman n'a pas lu mes livres et, parce que je commence à comprendre pourquoi c'est un peu compliqué de lire les livres de ta fille. Très compliqué, il faut dire.
Mais est-ce que d'une certaine manière, Orly Castelblum, le fait que votre mère ne vous lise pas en hébreu et qu'elle ne vous lise pas non plus dans les traductions vers le français, ça ne vous a pas offert une liberté d'écriture?
Et pas avec maman, non. Et oui, tu sais quoi, tu as raison. Ça m'a, la liberté, c'est vraiment l'essence de l'écriture. Et j'étais libre, mais j'ai quand même fait attention. Mm. Dans le roman égyptien, j'ai fait attention. Mm. Dans les autres, non.
Quelle place occupe la lecture dans votre vie aujourd'hui?
Je vais te dire la vérité, depuis le 7 octobre, je suis moitié... je n'arrive pas à lire, je n'arrive pas à me concentrer. J'ai essayé d'écrire, je suis en train d'essayer d'écrire, mais la vérité est que j'attends les otages. J'attends les otages qu'ils viennent à la maison et j'espère, je ne sais pas dans quel état... Et je crois que lorsque cette histoire des otages va se terminer, peut-être moi je veux réussir à avoir la jouissance d'écrire.
Aujourd'hui, on se parle à un jour de, on espère ratification de oui, d'un cessez-le-feu. C'est un hasard total de programmation, votre invitation ce jour-là. Est-ce que cette guerre entre le Hamas et Israël a créé autour de vous la même chose vis-à-vis des livres? Est-ce que les gens ont moins lu? Est-ce que vous avez l'impression que d'un seul coup, la littérature, les mots, l'écriture, la lecture, ça n'avait plus de sens, Orly Castelblum?
Bah oui, après le 7 octobre, tout est arrêté. Même mon cerveau, il est arrêté. Moi, je me souviens qu'après le massacre terrible, barbare, que le Hamas a fait, et je n'avais pas l'ambiance de vivre. Et je vais dire, raconter quelque chose. Et après le 7 octobre, je me suis Niskarti.
Je me suis rappelée.
Rappelée du film de Stanley Kubrick qui s'appelle Orange Mécanique. C'est un directeur, Stanley Kubrick, britannique, origine britannique. Et il a fait, dans ce film, il y a une bande de voyous, qui battent un personne très âgé. Battent et tuent une personne très âgée. Alors, qu'est-ce qu'il dit, cette personne? Et pendant qu'on lui bat et on lui tue, il dit, allez-y, tuez-moi. Allez-y, continuez. tu et moi, qui veut vivre dans un monde où de gens comme toi tuent de gens comme moi? Ça, c'est tout à fait ce que je pensais depuis cette massacre. Qui veut vivre dans un monde où de gens comme eux tuent de gens comme moi? Parce que les gens qui étaient tués là-bas au sud, ce sont des gens comme moi. C'est tout. C'est tout.
C'est aussi, depuis le 7 octobre, une période pendant laquelle la bande de Gaza a subi des bombardements, des dizaines et des dizaines de milliers de morts. Les gens qui ont été tués le 7 octobre étaient parfois des militants pour la paix. Beaucoup d'entre eux étaient des militants pour la paix. Comme vous dites, des gens comme vous, c'est-à-dire aussi des gens intellectuels, des gens éclairés, des gens critiques du gouvernement parfois. Votre personnage est un professeur d'université. Alors certes, il lui arrive pas que des choses bien, mais c'est un professeur d'université qui tient à la langue française, qui tient à la littérature, qui tient au savoir. Est-ce que la présence de tous les crimes, cette présence de la mort partout, c'est-à-dire le 7 octobre, mais aussi tout le massacre perpétré à Gaza, ça fait vaciller le rapport à la pensée, le rapport à la littérature?
Pardon, vous voyez ce que je veux dire? Quel massacre se passait à Gaza?
Ben, les dizaines de milliers de morts.
Des Palestiniens, vous?
Oui, oui, oui.
Bah, écoutez, je ne sais pas si vous le savez, mais les terroristes étaient installés dans des hôpitaux. Moi, personnellement, j'ai vu des tunnels, de rentrer au tunnel dans des chambres des enfants. Israël a fait, I believe, Israël a fait tout ce qu'il faut faire de ne pas, tuer des innocents. Mais c'est arrivé.
Alors, manifestement, notre émission, le Book Club de France Culture, n'est pas un endroit où on va discuter de savoir si Israël a tout fait pour ne pas tuer des innocents. Moi, ma question était de savoir si cette réalité-là faisait que les personnes qui s'attachent au savoir, à l'université, à la lecture, avaient comme déserté cet endroit-là. Est-ce qu'autour de vous, la classe intellectuelle, quoi, d'un seul coup, a eu comme un désintérêt pour la chose intellectuelle? Ou au contraire, ça vous a tenu, vous vous êtes attaché au texte, à l'écriture, à la littérature, Orly Castelblum?
Moi, je n'ai pas attaché à la littérature. Moi, j'ai tout à fait compris que qu'il faut arrêter tout, freiner l'auto et
faire quoi alors?
D'abord, être dans la trauma.
Être dans le drame.
Dans la drame, dans la trauma.
Ah, dans le trauma, pardon.
Trauma, oui, oui.
J'ai entendu le drame.
Ouais. Oui, et c'est une trauma qui continue encore. Et moi, je n'ai pas du tout attaché à les choses intellectuelles. Je croyais que ce n'est pas le bon moment. Je ne savais pas quoi faire. Et tu sais qu'est-ce que je fais vraiment? Je nettoyais la maison.
Comme le font beaucoup des personnages de votre livre, Orly Castelblum.
Mais moi, oui, maintenant, je peux vraiment ouvrir un bureau pour de gens qui nettoient leur maison. C'est-à-dire que je pourrais rien faire après ça. Ni lire. Et maintenant, c'est encore pire parce que je ne veux plus regarder la télé.
Ça veut dire
est tout à fait éteinte chez moi. Moi, bien entendu que je regarde les nouvelles ici.
Sur votre téléphone.
Sur mon téléphone, oui, c'est pas la télé ici, oui.
Ça veut dire que dans un moment dramatique, traumatique, où surgit l'extrême violence, les livres ne sont pas un secours?
Non. Et je me demande, qu'est-ce qui est arrivé pendant la guerre mondiale? Qu'est-ce qu'ils ont fait?
Est-ce que les gens lisaient?
Les écrivains. Je ne peux pas écrire comme escapisme.
Comme échappatoire.
Ouais, je ne peux pas.
Et lire?
Tu sais, avant le massacre, j'ai lu un livre de Bashev Zinger sur le massacre de 1648 à Pologne. Et le 7 octobre est arrivé, je jetais le livre. Et depuis ce moment, je n'ai pas touché aucun livre pour lire. Peut-être des paragraphes ici, des paragraphes là-bas, mais pas vraiment plonger dans un livre. Je n'arrive pas. Et aussi, je ne vois pas la télé et je ne regarde pas de films parce qu'il y a des otages à Gaza. Et je pense que peut-être je n'ai pas le droit de voir de films, d'oublier.
Comme vous pensez que vous n'avez pas le droit de vous distraire?
Oui, et je n'ai pas le droit aussi de... Moi, je me suis dit, tu ne peux pas manger certains fruits parce qu'il y a des otages à Gaza. Et maintenant, j'arrêtais à me maquiller. Tu vois, c'est vraiment, je suis rentrée dans un état triste. Triste, parce que tu sais quoi? Je commençais à comprendre que c'est pas évident qu'Israël existe. Je croyais que mes parents avaient terminé le travail de construire le pays. Et moi seulement, je dois vivre et écrire. Et cette guerre est venue. Et j'ai tout arrêté.
On va parler de votre livre à vous, Orly Castelblum. On va donc parler de littérature maintenant dans le Book Club, juste après cette chanson de Yassaf Avidan que l'on pourrait traduire « Les ciels indifférents », une chanson sortie en 2020 sur son disque « Anagnorisis ».
Old sun rising in these eyes and I can clearly see the cave which lies in our avoiding and embroidering pseudo-Freudian manifestos of this void in which we're toiling. It's just soiling. Pray to clear it all comes. All comes boiling down to moon and snake and mother, down to walls of me and other.
Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Il m'arrive de vouloir investir dans du double vitrage qui transformerait mon extérieur en film muet, quoique colorisé, mais en ce moment, je ne suis malheureusement pas calibrée pour palabrer avec des marchands de vitres et d'aluminium. Lui, celui qui parle, c'est Joseph Schimmel, le narrateur et personnage principal de votre nouveau roman, Orly Castelblum, un roman traduit en français aux éditions Actes Sud. Il a l'impression d'habiter au cœur d'un bouchon. Il regarde sa ville, comme sa vie, d'un peu loin. Il semble la subir, se laisser porter par les rencontres, plus ou moins bonnes, et les événements, dont l'héritage imprévu d'une maison de campagne en Normandie. Un biotope, qui est le titre de votre livre, ça désigne le milieu biologique nécessaire à l'existence d'une communauté animale et végétale. C'est en quelque sorte son habitat normal. Et le biotope de Joseph Schimmel a beaucoup changé ces dernières années. C'est ce qu'a relevé André, un auditeur du Book Club, qui a lu votre roman Orly Castelblum et qui vous adresse une question.
Bonjour le Book Club. Bonjour Orly Castelblum. Je vois dans Biotope un merveilleux hommage à la ville de Tel Aviv. Le regard que vous portez sur cette ville est à la fois tendre et dur. C'est un regard que l'on ne peut que porter sur quelqu'un que l'on aime très fort. J'ai eu moi-même l'occasion de m'y rendre à plusieurs reprises. Entre les années 1960 et 2019, j'ai vu au fil du temps cette ville évoluer et je voulais vous demander quelle était votre vision à vous de cette évolution et comment vous imaginez Tel Aviv dans les 50 ans à venir. Merci encore, Orly Castelblum.
Merci à vous, André, pour votre lecture de Biotope et pour cette question que vous adressez à Orly Castelblum. En effet, Orly Castelblum, une partie de ce roman consiste à regarder une ville changer, évoluer, à la fois ses rues, ses embouteillages, les voitures, mais aussi les êtres humains. André vous dit, le texte que vous produisez, c'est forcément le texte de quelqu'un qui aime cette ville.
Oui. Je vais d'abord dire que moi, personnellement, j'habite dans cet appartement et je ne vais pas quitter cet appartement. C'est un endroit incroyable. J'ouvre la fenêtre est toujours ouverte. Je regarde, je peux voir manifestation, je peux voir misère, je peux voir le premier ministre avec la grande voiture qui passe. Je peux entendre. Pas seulement. Moi, je suis déjà habituée au bruit. Je suis tout à fait habituée. Je n'entends pas. Je ne crois pas que la maison, il y a beaucoup de bruit. Je crois que ça va. Et aussi, cet endroit que Joseph Schimmel habite et moi, ça fait 12 ans que j'habite là-bas. C'est un endroit. Pourquoi c'est tellement extraordinaire pour moi? Parce que si tu te sens mal, déprimé, et tu descends en bas, 20 secondes et ça disparaît, et tu n'es plus déprimé.
Pourquoi?
Parce que tu vois les autres, d'abord tu vois la ville, tu vois le mouvement, et aussi tu vois des gens qui sont beaucoup, beaucoup plus misérables que toi. Alors tais-toi, je me suis dit, alors tais-toi Orly, il y a des gens beaucoup plus misérables. Toi, tout d'un coup, tu te dis, ma vie est belle.
L'auditeur qui vous adresse la question, André, lui, il connaît cette ville, il l'a vue évoluer des années 60 jusqu'aux années 2019, exactement 2020. Orly Castelblum, dans votre livre, le personnage de Joseph Schimmel, il dit aussi cela. Il dit aussi que la ville a changé, d'ailleurs toute sa vie à lui a changé. Vous écrivez le roman d'un homme qui chute d'une certaine manière, qui se voit dépossédé de tout ce qui était sûr dans sa vie. Quel regard vous portez sur l'évolution de Tel Aviv?
C'est une question triste. D'abord, à cause de la guerre, maintenant beaucoup d'immeubles tombent. On le fait tomber exprès parce qu'il faut construire une chambre dans chaque appartement maintenant. Il faut avoir une chambre qui te protège. Alors c'est pour ça qu'on construit de nouveau la ville maintenant. Ça fait 17 ans que toute la ville est en train de changer. Moi, jusqu'à 2011-2012, j'étais 25 ans dans le banlieue de Tel Aviv. Alors j'ai oublié qu'est-ce qui se passait dans la vraie Tel Aviv. Après 2012, je suis revenue à Tel Aviv et c'était pas du tout la même ville que je quittais lorsque j'étais beaucoup plus jeune. D'abord, il y avait beaucoup plus de monde. Il y avait tout à fait une génération que je n'ai pas connue. Et pas seulement ça, la nouvelle génération, ils ont devenu déjà chauves. C'est-à-dire que j'ai vraiment raté.
Vous avez vu, c'est comme si vous n'aviez pas vu vieillir ceux qui faisaient avant la jeunesse de Tel Aviv. Et votre livre Biotope témoigne aussi de ce temps qui passe. Joseph Schimmel, c'est un enseignant à l'université de Tel Aviv. Il enseigne le français. Qu'est-ce qu'on peut dire de lui d'autre? On va parler de son métier d'enseignant, mais si vous deviez le présenter, ce personnage, qu'est-ce qu'on peut dire de Joseph Schimmel?
Ok. Et c'était très dur pour moi, une femme, à écrire première personne, homme. Très dur. C'est pour ça, je crois, aussi une des raisons que ça m'a pris 7 ans à écrire ce livre. Aussi, le problème de français. Parce que je savais qu'un jour, ce livre va arriver en France et les Français vont lire le livre. Alors, il faut pas faire des fautes. Si les Français lisent le livre, il faut pas faire des fautes. Alors, je tout à fait vérifier des choses. Et je crois que maintenant, je suis tranquille avec la langue française.
Mais il y a aussi l'idée, moi, comme je le sens, ce Joseph Schimmel, c'est que il se laisse un peu porter par les événements. C'est-à-dire, il dit, j'ai l'impression de vivre dans un bouchon, mais dans un bouchon, on est impuissant. C'est-à-dire, il y a des bagnoles devant, il y a des bagnoles derrière, on peut rien faire, on peut que attendre. Joseph Schimmel, c'est un homme qui, moi, me donne l'impression un petit peu de ça, d'une sorte de passivité par rapport à son existence.
Underdog.
C'est-à-dire?
Underdog, ça veut dire quelqu'un qui n'est pas, underdog. Quelqu'un qui...
Je l'ai pas, je sais pas c'est quoi.
Anglais. Et quelqu'un qui est du sous de la société. Et qui voit les choses d'en bas.
Et aussi, du point de vue de la classe sociale, non?
Non. Mais il a perdu son boulot à...
Marginal.
Oui. Il a perdu son boulot à l'université. Il faut dire, moi aussi, j'étais envoyée de l'université de Tel Aviv et ça m'a beaucoup vexée. Comme Joseph Schimmel, c'est un point très bon de commencer un livre. Être vexée, comme votre caractère. Ça m'a pris plusieurs années de commencer à aimer ce Joseph Schimmel. Et le jour que je... commençais à lui comprendre, c'était lorsque je suis arrivée avec lui à lire les choses que les étudiants écrivent sur lui. Lorsque j'ai vu ça, je dis c'est mon genre de personne.
On va écouter un extrait de votre livre dans votre traduction, Rosie.
Du temps de ma splendeur au département de français, je traduisais, comme je l'ai déjà dit, des textes dans les deux langues, pour des firmes d'import-export et pour des particuliers. J'ai compris que désormais je devais mettre au rebut, dans mon cerveau, toute ma connaissance de la littérature française en général, et de Balzac en particulier, et cultiver des relations sociales qui n'aient plus aucun rapport avec le format enseignant-étudiant entre lesquels se dresse une estrade en beau bois, désignant aux yeux de tous qui est au-dessus et qui sont ceux qui sont au-dessous. Quelle force, quelle supériorité vous procure l'estrade. Inutile de se tenir droit. J'ai aimé saisir le pupitre de part et d'autre. Je m'y sentais protégée et en sécurité, prêt à bombarder mon cours.
Un extrait de votre texte, Orly Castelblum, Biotope, où ce Joseph Schimmel nous raconte combien l'estrade du professeur de français qu'il était, du professeur d'université, lui manque parce qu'il était en sécurité, parce qu'il était au-dessus, parce qu'il y avait quelque chose de la maîtrise. D'une certaine manière, votre roman Biotope raconte la manière de descendre de l'estrade, d'être dépossédé de ce qui nous faisait fort ou en sécurité, d'une certaine idée de soi-même. Est-ce que c'est ça que vous avez voulu écrire, Orly Castelblum ? Une forme de chute, pas brutale, oui, mais une chute quand même.
Oui, c'est ça que je voulais écrire. Et je voulais écrire quelque chose sur quelqu'un qui perd tout ce qu'il a. Comme argent, comme maison, travail, il perd tout. Qu'est-ce qu'il reste? Je voulais explorer. Qu'est-ce qu'il reste après que tu perdes ça et ça et ça et ça et tu perds la maison? Qu'est-ce qui te reste? Alors ça, regardez, il faut lire le livre pour savoir.
Il lui reste, par exemple, l'observation.
Oui.
Il y a quelque chose qui, dans cette forme de déshérence, d'ennui, de vide au départ quand on le rencontre, eh bien, est comblé par le temps qu'il passe à la fenêtre et la manière dont il observe les êtres vivre, la ville aussi, avant que lui arrivent des tas de galères, des tas d'embrouilles. Donc on ne va pas rentrer dans les détails, mais est-ce que vous avez aussi ce goût-là du regard et de la description, Orly Castelblum?
Tout à fait. Moi, si je dois décrire jusqu'à la fin de mes jours...
Vous êtes heureuse?
Je suis heureuse.
Pourquoi?
D'abord, j'aime faire ça. J'adore ça, d'écrire. Mais il faut avoir un plot, une histoire, quelque chose qui bouge vers quelque chose. Et ça, c'est très dur, mais il faut le faire. Et
est-ce que décrire, c'est pareil que regarder? Joseph Schimmel, lui, il regarde par la fenêtre. Est-ce que vous, quand vous écrivez des descriptions, vous qui aimez tant des auteurs français qui le font si bien, Orly Castelblum, est-ce que c'est pareil que avoir de l'acuité, être capable de regarder le monde?
D'abord, je ne sais pas distinguer entre les deux possibilités. Je ne peux pas distinguer. Pour moi, c'est la même chose. Et je regarde... Et j'observe, et après, j'écris. Et d'écrire, c'est vraiment la vie pour moi. Mais comme quelqu'un dans la banque m'a dit il y a quelques années, si, sur quoi vous écrivez? Sur la vie. Il m'a dit, est-ce qu'il y a des histoires, des drames dans votre... Oui, je dis, mais aussi il y a beaucoup de descriptions. Alors il me dit, non, je n'aime pas ce genre. Avec ça, tu ne peux pas acheter une maison avec des descriptions. Il faut avoir action. Alors, il y a action. Il y a beaucoup d'action dans le livre, il faut dire. Et aussi des descriptions.
On va écouter la voix d'un auteur qui s'appelle Edgar Keret dans une archive de 2011 au micro de Kathleen Evin. Il parle de la littérature.
Je ne pense pas que la littérature offre une vie meilleure. Mais elle peut créer une cohérence dans quelque chose qui est absolument arbitraire. Le besoin d'écrire, c'est un besoin de survie. Ce qu'on fait, en fait, on prend des faits arbitraires, violents, incompréhensibles, et puis en créant quelque chose d'autre, on crée une autre réalité, une réalité héroïque, une réalité épique. Même si elle est minimaliste, ça donne quand même un sens. De mon point de vue, mon entrée dans le monde de la littérature, ce n'était pas une tentative d'échapper au monde, mais tenter de donner un sens au monde.
Edgar Keret qui dit l'écriture, la littérature, ça permet de donner un sens au monde. Vous avez publié de nombreux romans, Orly Castelblum. Vous diriez que ça occupe quoi comme place ou ça occupe quoi comme rôle, le fait d'écrire?
Moi, je passe ma vie à écrire. Pas 24/7, mais 3 heures par jour, c'est déjà pas mal. 4 heures par jour... On dirait que j'écris jusque les enfants viennent de l'école. Mais maintenant qu'ils ont des enfants, eux.
Eux-mêmes.
Eux-mêmes, voilà. Et écrire, c'est, écoute. Et lorsque moi je m'assois à écrire, c'est lorsque je sens que quelque chose arrive. Pas pour écrire, pour écrire. Moi, je n'écris pas pour écrire.
Et alors, comment vous sentez que quelque chose arrive?
J'attends. Après que je termine un livre, il faut attendre. Il faut peut-être 1 an, 2 ans de silence. Je vais écrire, mais je ne peux pas me forcer à écrire. Et je déteste argacha.
Le sentiment
que tu écris et ce n'est pas bon. Je déteste ce sentiment, être déçu de toi-même. Je ne peux pas supporter cette sensation. Et alors, je vis, c'est-à-dire, je nettoie, je m'occupe de mes plantes, je nettoie, je m'occupe de mes plantes, je descends acheter un café, et je m'occupe de mes plantes, et peut-être quelque chose arrive maintenant. Alors, je vais m'asseoir à commencer par un premier paragraphe. Je commence par un paragraphe, par une phrase. La première phrase. Je cherche la première phrase, comme tu cherches comment...
piano.
Voilà. Mm. Comme tu cherches le piano, dans le piano, la musique. Moi, je cherche la première phrase, ça peut me prendre des mois. Parce que je vais entendre la première phrase qu'elle arrive. Alors, elle arrive, c'est pas quelque chose de mystique. C'est quelque chose qui arrive dans la vie. Alors, j'écris un paragraphe. Il est bien. Le lendemain, je regarde le paragraphe. Il est bien. Je corrige un peu ici. Je corrige et je continue. Un autre paragraphe. Un autre. Petit à petit, il faut avoir une patience que je ne sais pas où je l'ai. Seulement à l'écriture.
Seulement dans l'écriture.
Non, ça n'existe pas dans la vie.
Est-ce qu'elle bouge cette phrase? Par exemple, la phrase de votre roman, le début de Biotope, c'est « Deux ficus au tronc épais, qui poussaient l'un dans l'autre depuis des dizaines d'années, avaient envahi la haie vive devant l'immeuble. » Elle a bougé cette première phrase?
Oui. Oui, et deux mois pour écrire cette phrase, pour voir lui donner sa force. Ça ne doit pas être une regarde le temps. Le temps est très bas.
Deux ficus. Au tronc
très
épais.
Tranquille, très bas. Mais il y a je sens lorsqu'il y a
la vie,
pulse.
De la pulsation.
Oui, je sens. Comme un docteur.
Tout à l'heure, vous disiez, Orly Castelblum, qu'après un livre, il fallait laisser la vie, donc, voilà, les plantes, le café, la promenade, mais aussi le silence. Et dans ce roman-là, Biotope, ça revient souvent le silence, notamment Shabbat, la manière dont la ville se calme, l'appartement se calme. Et le personnage Joseph Schimmel dit même, dans la traduction vers le français, « Les mécanismes en moi s'éteignent », comme s'il y avait quelque chose de la machine humaine qui se calmait un petit peu. Il y a vos lunettes qui sont prises dans votre pull. Il me semble que ce livre, il va aussi vers ça. À la fin, Joseph Schimmel, il est comme apaisé. Il y a aussi quelque chose qui va vers une forme de... Peut-être pas de silence, mais de calme.
Ah, c'est bien que vous me le dites. Ce genre de calme, je l'ai. Je l'ai dans mon esprit. Il y a un coin très calme là-bas. Au milieu, je crois.
De votre esprit, vous voulez dire?
Oui, oui. Et il y a un silence. Sans cet silence, tu ne peux pas écrire. Tu ne peux pas écrire parce que tu dois être, je ne sais pas qu'est-ce que ça me donne, cette silence, mais ça me donne, c'est comme aller donner de sens à la voiture.
Vous allez vers ce silence pour écrire vos livres?
Oui. Même maintenant, si je veux être dans mon silence, ben, c'est pas que mystique, mon silence intérieur, je peux le faire. Tu comprends?
Parfaitement. On écoute un nouvel extrait de Biotope.
Il n'est pas de plus grande plénitude du corps et de l'âme que celle éprouvée dans une vaste maison reçue en héritage, sans le moindre effort, à 3,5 mètres de la mer. C'est la perfection. La chose en soi, regarder les vagues s'écraser contre le mur de pierre à l'heure de la marée haute. Le plaisir était si sublime qu'à l'époque j'ai commencé à croire en Dieu. Après tout, un miracle s'était produit, Dieu m'aimait, c'était clair comme le jour, le Tout-Puissant s'était mêlé à l'amour de ma grand-mère et avait décidé que les fruits de cet amour m'atteindraient comme une vague par-delà sa mort. J'aimais fouiller dans la maison. Tout était à la fois neuf et ancien. J'y avais habité dans ma petite enfance. Quelqu'un avait déjà nettoyé toute la maison et l'avait réorganisée pour en faire une maison d'hôte. Je ne sais pas ce qui s'était passé par la tête de ces gens-là, ni de quel droit ils avaient décidé de son sort. Dans chaque chambre, au pied du lit, on avait déposé des serviettes blanches, de tailles diverses. Les draps étaient d'une blancheur immaculée, en coton égyptien, parfumés à la lavande. Certains étaient adroitement brodés de pommes rouges ou de feuilles vertes de pommiers en fleurs ou non. La maison était pleine de livres qui avaient été lus. sur l'histoire de la Normandie, histoire réelle ou imaginaire de familles de pêcheurs parties en mer et jamais revenues. Un livre aussi gros qu'une encyclopédie sur Guillaume le Conquérant. Quelques volumes du Grand Larousse et bien sûr, les livres pleins de photos en noir et blanc sur le débarquement de juin 1944 en Normandie et des journaux de l'époque, eux aussi avec des photos en noir et blanc. Les ustensiles de cuisine trop nombreux pour une personne seule étaient à leur place, propres et prêts pour des locataires éventuels. J'étais reconnaissant envers ceux qui avaient tout rangé avec de bonnes intentions, en particulier d'avoir vidé le réfrigérateur et jeté les vêtements de ma grand-mère. Mais je n'avais pas la moindre intention de transformer mon bel héritage en maison d'hôte.
Un extrait de votre livre Biotope, dont la traduction vers le français par Rosie Pignage Del Puech, Orly Castelblum. Le motif de la maison est très présent dans ce livre-là.
Oui.
Dès le départ, dès le titre Biotope, c'est vraiment un habitat. Enfin, là, c'est l'habitat du vivant. Et puis, il y a cet appartement à Tel Aviv, il y a cette maison dont hérite Joseph Schimmel en Normandie. Il y a quelque chose de se sentir chez soi qui est toujours dérangé pour Joseph Schimmel. C'est-à-dire qu'à la fois, il éprouve une grande jouissance à être dans un endroit qu'il habite et en même temps, il y a tout le temps des gens pour venir déranger des objets, pour venir modifier l'odeur. Il y a vraiment cette dualité-là dans son rapport à la maison, Orly Castelblum.
Oui, je veux dire quelque chose. Moi, dans la vie, si on me demande « qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Alors je peux répondre « j'habite ». J'habite donc je suis. Exactement. J'habite donc je suis. J'habite dans cet appartement déjà, c'est déjà bien. C'est-à-dire j'existe. Il y a deux murs, il y a des livres, il y a ma table, il y a les fenêtres. La maison est très très importante pour moi. Mais maintenant même, j'attends le moment d'habiter. De rentrer chez moi et habiter, et continuer à habiter. Et la maison, regarde, on ne peut pas montrer, mais ça c'est le.
Mais vous pouvez la décrire, c'est la couverture du livre en hébreu.
La couverture du livre en hébreu, on voit un immeuble. Un immeuble à l'envers qui tombe d'en haut jusqu'en bas. Et perdre la maison, c'est terrible. Lorsque j'ai écrit ce livre, j'ai terminé le livre en 2019. C'est-à-dire vraiment 2 mois avant le Covid. 2 mois avant que tout le monde devait rentrer chez eux et habiter. Et nettoyer. Et le livre s'arrête là-bas. Mais tu peux imaginer qu'est-ce qui t'arrivait avec Joseph Schimmel là-bas en Normandie pendant le Covid. Il n'y avait pas de touristes. Il a perdu son appartement à Tel Aviv. Il ne peut pas louer. Non, je ne vais pas dire des choses sur la fin du roman, mais il est dans un état très compliqué pour parler understatement. Alors, 2019, c'est la fin de 7 ans. C'est la fin d'une époque pour nous. La fin. Il y avait le Covid, la guerre. Et quoi encore?
Mais il y a quelque chose, Orly Castelblum, qui n'est pas tranquille dans son rapport à la maison. Vous vous dites, moi, ma vie, c'est habiter la maison. Mais Joseph Schimmel, il y a toujours une étrangeté dans son rapport à la maison. C'est-à-dire que quand il rentre, que ce soit dans la maison dont il hérite en Normandie, ou quand il rentre dans son appartement à Tel Aviv, il y a toujours des objets qui ont bougé, une odeur qui a changé, quelque chose qui s'est passé en son absence.
Exactement.
Qu'est-ce que vous travaillez comme motif en lui faisant vivre ça à votre personnage? Qu'est-ce que vous nous racontez dans cette étrangeté qu'éprouve Joseph Schimmel?
Que tout peut changer d'un moment à l'autre. Ça, on sent très bien chez nous. Que tout peut changer d'un moment à l'autre. Toute ta vie peut changer soudain. Et ça, je veux dire Israël, le pays Israël, c'est un genre de laboratoire de l'inconnu, de ce qui est inconnu dans la vie. Qu'est-ce qui va l'avenir? qu'est-ce qu'on va devenir? Alors, et Israël, c'est un genre de laboratoire. Si tu veux voir, si tu veux faire une recherche sur l'être humain under pressure, viens en Israël.
Est-ce que c'était Biotope, le titre de votre roman en hébreu?
Oui. Et il y a une petite histoire à raconter. Lorsque j'étais jeune, 17 ans, j'étudiais la biologie. On devait faire un travail qui s'appelait Biotope. Chacun prend un champ,
une flaque d'eau.
Une flaque d'eau. Et il doit décrire qu'est-ce qui se passe là-bas. Point de vue et Yetzurim.
Les créatures.
Et qu'est-ce qu'il y a dedans, là-bas. Alors, lorsque j'étais jeune, j'ai écrit un biotope, un vrai biotope, pendant mes études. Mais au lieu d'écrire ça joli, j'ai écrit comme ça, sans faire beaucoup d'attention. Et j'ai reçu 8 sur 10. Un an plus tard, quelqu'un qui est plus petit que moi voulait copier mon biotope. Et il a copié, il a bien donné, très très joli, il a fait 9 sur 10. Alors ça, je voulais corriger dans le bac. Je voulais corriger mon bac à biologie.
10 sur 10.
10 sur 10.
Le book club continue.
France Culture, le book club, Marie Richeux.
Et à cette heure-ci, tous les jeudis, on prend des nouvelles du livre grâce à la rédaction internationale de Radio France en dehors de nos frontières. Aujourd'hui, on se rend au Québec avec vous, Pascal Guéricolas. Bonjour Pascal.
Bonjour.
Au Québec, c'est un nouveau dictionnaire qui a fait son apparition cet automne. Il s'agit d'un genre plutôt particulier parce qu'il s'intéresse surtout au vocabulaire des 35 ans, mais pas n'importe quel jeune gens puisqu'il s'agit des chillers, Pascal.
Oui, Marie, chiller, que l'on pourrait traduire peut-être par glandeur. Ce mot fait partie des quelques 3000 articles que l'on retrouve dans cet ouvrage qui est édité par la branche québécoise du Robert. Il a été écrit par un chanteur et linguiste, Jérôme 50. Alors, ce terme chiller qualifie une personne qui adopte une attitude détendue, désinvolte, nonchalante, un mode de vie hédoniste, anticonformiste, oisif. Alors, le ton est donné dans ce dictionnaire. Les mots défini porte beaucoup sur la consommation d'alcool, de drogue, sur les plaisirs sexuels aussi, mais également sur une conception de la vie libre à l'opposé de la vision d'une génération docile que la société de performance voudrait imposer. Dans son premier album, Jérôme 50 chante d'ailleurs « Faut pas travailler trop fort pour monter dans la hiérarchie ». Son dictionnaire se veut un instantané, une photo d'une génération qui est sensible au mouvement de migration du Québec. Une génération qui est traversée par les influences de l'argot français, bien sûr, par celle de l'haïtien de Montréal, par l'anglais, mais par l'arabe également, souvent à travers les paroles du rap.
Et alors, comment l'auteur a procédé pour collecter ces nouveaux mots, Pascal ?
Alors pour l'écrire, l'auteur a rencontré les jeunes là où ils se trouvent, dans les fêtes, dans les parcs publics, à travers tout le Québec. Bière à la main, ce linguiste de formation les a écoutés pendant 5 ans, parler, plaisanter, se relancer. Son but, recueillir ce matériau culturel vivant de première main, puis traiter les mots avec toute la rigueur nécessaire. Le dictionnaire du chiller fournit des tableaux de conjugaison, il donne des définitions étayées, des références souvent musicales, des explications étymologique, comme par exemple dans le mot « belle hit » pour se régaler d'un bon repas qui nous fait voyager de l'haïtien à l'anglais, au français, ou même dans l'ancien français. Des mots apparaissent aussi sous un jour nouveau, alors que l'on pense à « déneiger » pour aspirer de la cocaïne par le nez, à « découdre » pour se rendre dans un état lamentable en buvant ou en se droguant, ou encore à « deuxième génération », qui décrit une cigarette qui est faite de restes de mégots.
Le dictionnaire du chiller n'a donc rien de politiquement correct.
Non, en fait, il ne juge pas. Une bonne partie des entrées peuvent être considérées comme vulgaires, offensantes envers les femmes, les homosexuels. Mais encore une fois, il s'agit d'une prise de vue, un peu à la manière, vous savez, du dictionnaire français d'Abdelkarim Tengour, qui est intitulé « Tout l'argot des banlieues », qui est paru en 2013. Jérôme 50, l'auteur, lui, il aime viscéralement la langue française. Il milite pour que les jeunes se l'approprient sans honte, parce que sa plus grande crainte, c'est que les élèves développent une aversion pour la langue, à force de se faire reprocher de mal parler, de faire des fautes. Il préfère, lui, tendre l'oreille, recueillir de nouvelles expressions. Il y a d'ailleurs un site collaboratif qui existe, le dictionnaire du chiller.buzz, pour rester à jour d'une langue en pleine évolution.
Bah, vous pouvez compter sur moi, mais dès ce soir, pour aller consulter ça sur Internet. Un grand merci, Pascal. On peut vous réécouter Lecture sans frontières sur franceculture.fr. À cette heure-ci, dans le Book Club, on joue avec vous au grand jeu des pages musicales. Il s'agit de repérer des airs, des évocations musicales dans les livres que vous lisez. Vous faites une photo, vous nous l'envoyez via le compte Instagram du Book Club Culture ou alors par mail lebookclub@radiofrance.com. Si je remets les choses dans l'ordre, vous pouvez aussi nous écrire tout ce que vous voulez à cette adresse. Notre auditeur s'appelle Colin. Tiens. Il a relevé un extrait dans un livre qui s'appelle Cui-Cui de Juliette Drouard, paru tout juste en janvier 2025 aux éditions du Seuil. Je me retrouve au milieu de ce bordel de jambes. Je suis le flot. Sur la place de la préfecture, il y a masse de monde. C'est blindé. Je me faxe entre les gens pour rentrer dans le tas. J'entends un groupe scander en frappant dans ses mains « de l'air, ouvrez les frontières ». Je continue. Il y a une petite camionnette au milieu qui n'arrive pas à faire respecter son périmètre de sécurité. Les gens qui tenaient une corde autour ont lâché l'affaire devant la foule et zonent aux abords, la corde ballante. Il y a juste un peu d'espace maintenu à l'arrière. Les portes de l'utilitaire sont ouvertes sur un bordel de pancartes et deux grosses enceintes. Un type à paillettes discute avec une femme-homme perchée sur des plateformes shoes. Un mégaphone au bout de son bras, contre son déhanché, elle porte un t-shirt noir avec un triangle rose et en dessous écrit « Silence égale mort ». Une gouine au crâne rasé se ramène, passe entre eux et entreprend de bidouiller la sono à l'arrière du véhicule. Elle se retourne vers eux. Je ne sais pas ce qu'elle dit en agitant un gros rouleau de scotch noir, mais ça a l'air des barres. Ils sont morts de rire, bonne ambiance. Elle repasse la tête à l'intérieur et tout d'un coup, bam, un gros coup de son qui pète une demi-seconde. Tout le monde a rentré la tête dans les épaules et s'est approché les mains des oreilles par réflexe. On ressort le coup. Ça grésille et ça crache un peu, mais moins fort. Et puis le son devient clair. C'est une voix de Castra, sur un son techno. Mais honnêtement, c'est beau comme un cri. Orly Castelblum d'avoir été avec nous pour évoquer votre livre Biotope paru aux éditions Actes Sud. Et merci à vous, Rosie Pignaz-Delbrech, d'avoir été avec nous, à nos côtés, et vous signez cette traduction depuis l'hébreu vers le français. C'était au son Paul Guig aujourd'hui, Vivien Demeyer à la réalisation. Merci à Jeanne Aléos, Mathilde Wagman, Cyril Marchand, Marianne Chassard, Oriane Mignot et Alexandre Alaï-Begovic qui m'aident à penser et préparer ces émissions. Vous pouvez les réécouter sur franceculture.fr ou l'appli Radio France.